Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre étude concernant le chemin du calvaire. Pour aujourd'hui, notre premier sujet sera la voie sainte. Le deuxième sujet, c'est la colombe et l'agneau. Le troisième sujet, c'est le réveil dans nos foyers. Nous allons tout d'abord commencer par la voie sainte. Pour connaître la vie de victoire, il faut apprendre la simplicité. Combien nous l'avons compliquée, cette voie. Des volumes ont été écrits à ce sujet. Des formules sans nombre ont été données. On nous a dit que le secret était ici ou là. Mais pour la plupart d'entre nous, tout cela est tellement compliqué que bien que nous le connaissons en théorie, nous ne sommes pas capables de l'appliquer à la vie quotidienne. Pour rendre plus clair encore les vérités que nous avons envisagées jusqu'ici, nous aurons dans ce CD recours à quelques images. Prenons Ésaïe, au chapitre 35, verset 8. Ésaïe 35, verset 8 nous fournit une image caractéristique de la vie de victoire. Il y aura là un chemin frayé qu'on appellera la voie sainte. C'est l'image d'un chemin construit au-dessus des plaines marécageuses qui représentent le monde. Bien que ce chemin soit étroit et qu'il monte, il n'est aucun d'entre nous qui ne puisse y marcher, car même les simples ne pourront s'y engager. Et surtout, vont peut-être même s'égarer. Alors les dangers sont nombreux si nous quittons cette voie. Mais nous sommes en parfaite sécurité si, par exemple, nous y demeurons, car sur cette route, il n'y a point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Donc, une seule catégorie s'envoie interdire l'accès. Alors là, écoutons bien. Nul impur n'y passera. Et cela comprend non seulement le pécheur qui ne connaît pas Christ comme son sauveur, mais le chrétien qui, tout en le connaissant, continue à demeurer dans des péchés non confessés et non purifiés. Je répète, nul impur n'y passera. Et cela comprend non seulement le pécheur qui ne connaît pas Christ comme son sauveur personnel, mais le chrétien qui, tout en le connaissant, continue à demeurer dans des péchés non confessés et non purifiés. Le seul accès à ce chemin frayé est une petite colline sombre et peu engageante, c'est la colline du calvaire. Elle se gravit sur les mains et les genoux, surtout sur les genoux. Si nous sommes satisfaits de notre vie chrétienne, si nous ne sommes pas possédés d'une faim et d'une soif irrésistibles d'arriver jusqu'à cette voie sainte, nous ne tomberons jamais à genoux. Et ne pourront pas par conséquent, nous pourrons jamais gravir cette colline. Mais si nous sommes mécontents, affamés, alors nous trouverons le chemin qui monte. Ne vous hâtez pas, mais laissez Dieu créer en vous cette soif pour la voie sainte. Et suscitez dans votre cœur les soupirs de l'esprit. Les simples touristes n'avanceront pas sur ce chemin. car la Bible nous dit « Vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur ». Au sommet de la colline, gardant l'accès à la voie sainte, se dresse la croix. Sombre et âpre, elle divise le temps et les hommes. Au pied de la croix se trouve une porte basse, si basse que pour la franchir, il faut se baisser et ramper. C'est le seul accès à la voie sainte, au chemin frayé sur la hauteur, et il nous faut passer si nous voulons pénétrer plus avant. Et cette porte s'appelle la porte des brisés. Oui, seuls ces derniers, les brisés, peuvent y passer. Être brisé, c'est pouvoir dire non plus moi, mais Christ. En chacun de nous se trouve un moi orgueilleux, au cou raide. Ce cou a commencé à se raidir dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève, qui s'étaient toujours soumis à la volonté de Dieu, se rebellèrent et réclamèrent leur indépendance, cherchant à être comme des dieux. À travers toute la Bible, Dieu reproche à son peuple d'avoir le cou raide. Or nous l'avons aussi. Nous sommes durs et révoltés, susceptibles et facilement offensés. Nous nous irritons, nous envions, critiquons, nous refusons de pardonner et surtout gardons rancune. Ah oui, et nous luttons le plus souvent par nous-mêmes et essayons d'accomplir par nos propres efforts ce qui devrait être laissé à Dieu. Nous sommes donc indulgents envers nous-mêmes. Et comment ? Et combien souvent cela nous conduit à l'impureté ? Oui, toutes ces choses et beaucoup d'autres ont leur source dans notre moi orgueilleux. Si Christ le remplaçait vraiment en nous, nous n'aurions pas ces réactions-là. Avant que nous puissions pénétrer sur les hauteurs de la voie sainte, il faut que Dieu courbe et brise le moi, de sorte que Christ règne à sa place. Donc, être brisé, cela signifie n'avoir plus de droit ni devant Dieu, ni devant les hommes, non pas simplement les abandonner, mais reconnaître que nous n'en avons point, si ce n'est celui de mériter l'enfer. Dieu nous conduit au pied de la croix. Et là, il nous montre ce que c'est que le brisement véritable. Oui, là, nous voyons ses mains et ses pieds blessés, ce visage empreint d'amour et couronné d'épines, et le brisement complet de celui qui a dit « Que ta volonté soit faite et non la mienne », tandis qu'il buvait jusqu'à la lie la coupe amère de nos péchés. Ainsi, c'est en regardant à lui et en réalisant que ce sont nos péchés qui l'ont cloué là, que nous serons brisés à notre tour. En contemplant l'amour et le brisement de Dieu mourant à notre place, nos cœurs se fondront et nous voudrons être brisés pour lui, et cette prière deviendra la nôtre qui dit « Sauve-moi de moi-même, ô mon Sauveur, je veux me perdre en toi, que ce ne soit plus moi, mais toi, Jésus-Christ, qui demeure en mon cœur. » Plusieurs ont constaté qu'il n'est pas de prière plus promptement exaucée par Dieu que celle dans laquelle nous lui demandons de nous briser. Ne pensons pas cependant qu'il nous suffise d'être brisés une seule fois, et cela en franchissant la porte. Le choix continuera à s'imposer constamment à nous, tandis que Dieu nous mettra à l'épreuve. Chers amis, quelqu'un nous blesse-t-il? Nous fait-on du tort? Nous avons le choix d'accepter le tort qu'on nous fait comme un moyen de grâce pour nous humilier et nous abaisser, ou bien nous pouvons évidemment résister et, comme on dit, raidir le coup avec tous les tourments que cela ne manquera pas d'entraîner pour nous. Oui, tout au long de la journée, l'authenticité de notre brisement sera éprouvée. Et il est inutile de prétendre que nous sommes brisés devant Dieu si notre attitude vis-à-vis de nos semblables prouve que nous ne le sommes pas envers eux. Dieu nous éprouve presque toujours par le moyen de notre prochain. Il n'y a pas de hasard dans la vie du chrétien. Dieu nous fait connaître sa volonté par ses dispensations personnifiées et parfois par les autres. Si vous êtes, par exemple, en conflit avec vous-même, et ceci parce que vous avez la peine à accepter le brisement, retournez tout simplement au calvaire. Contemplez Christ brisé pour vous. Et vous serez prêt alors à être brisé pour lui, notre Seigneur bien-aimé. Les linteaux de la porte basse, celle des brisés, sont aspergés du sang du Seigneur Jésus-Christ. Tandis que nous nous courbons pour la franchir, ce sang nous purifie de tout péché. Car non seulement il faut nous courber pour passer, mais seuls ceux qui sont purifiés ont accès à la voie sainte. Il se peut que vous n'ayez jamais connu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et il se peut aussi que vous le connaissez depuis des années. Quoi qu'il en soit, vous êtes souillé par le péché, péché d'orgueil, d'envie, de rancune, d'impureté, etc. Si vous êtes prêt à tous, oui, à tous les abandonner, et ceci à celui qui les porte, alors vous l'entendrez murmurer à nouveau ce qu'il dit sur la croix. Tout est accompli. Et votre cœur sera plus blanc que neige. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi que nous nous élevons jusqu'au chemin frayé à la voie sainte. Elle s'étend devant nous, étroite, abrupte et baignée de lumière. Conduisons à Jérusalem. Des deux côtés, un abîme de ténèbres, et cela même jusqu'à l'extrême bord. Mais sur le chemin lui-même, tout est lumière. Derrière nous, nous voyons la croix, non plus sombre, elle est plus sombre, non, et elle est plus redoutable, mais elle est illuminée d'une clarté céleste. Nous n'y apercevons plus le Sauveur étendu, mais nous le voyons maintenant marcher sur la voie sainte, débordant de la vie de résurrection. Il porte une cruche remplie d'eau vive et s'approche de nous. Il nous demande de lui tendre notre coupe. tripes, c'est-à-dire notre cœur. Il en scrute l'intérieur et il voit que nous savons accepter d'être purifiés par son sang précieux et il le remplit d'eau vive. Nous avançons alors dans la joie et la louange débordant de la vie nouvelle. Et c'est là, oui là, le réveil. Le réveil quand vous et moi sommes remplis à chaque instant du Saint-Esprit, remplis d'amour pour les autres et désirons ardemment leur salut. C'est important que nous désirons leur salut. Plus de lutte donc, plus de halte douloureuse, mais nous lui apportons simplement chaque péché pour qu'il nous en purifie et recevons en échange le don gratuit de sa plénitude. Jésus-Christ peut alors travailler au travers de nous. Tandis que nous marchons avec lui, il remplit constamment notre coupe, de sorte qu'elle se trouve toujours débordante. Dès lors, notre vie chrétienne sera simplement une marche avec lui sur les hauteurs de la voie sainte, vie toujours soumise à sa volonté, constamment purifiée par le sang, vie de complète unité avec que Jésus-Christ. Rien en elle de spectaculaire, pas de recherche d'émotions spéciales, mais la volonté de Dieu accomplie de jour en jour en nous. Telle est la véritable sainteté. Il arrive que nous glissons hors de la voie sainte, car elle est étroite. Un petit pas de côté, et nous voilà hors du chemin, dans les ténèbres. Cela tient toujours à quelque manque d'obéissance, ou au fait que sur un point ou un autre, nous n'avons pas su être assez humbles pour laisser Dieu tout accomplir. Satan est toujours à côté du chemin, ah oui, et nous entendons ses appels, mais il ne peut plus nous toucher. Cependant, par un acte de volonté, nous pouvons céder à sa voix. Alors commence le péché et l'éloignement de Jésus-Christ. Parfois, c'est notre coup que nous raidissons, soit à l'égard de nos frères et sœurs, soit à l'égard de Dieu, ou bien la jalousie ou la rancune nous assaille. Nous sommes tendus et luttons au lieu de nous reposer en Dieu. Immédiatement, nous nous trouvons en dehors du chemin, car rien d'impur ne peut subsister sur la voie sainte. Car notre coupe a été souillée, elle cesse de déborder et nous perdons la paix de Dieu. Si nous ne revenons pas immédiatement sur la voie sainte, nous nous enfoncerons toujours plus dans les abîmes qui la bordent. Mais comment revenir ? La première chose à faire est de demander à Dieu de nous montrer la cause de notre faux pas. Il le fera certainement bien que nous soyons parfois lents à le comprendre. Peut-être que quelqu'un m'a-t-il irrité. Va savoir. Eh bien, Dieu veut me montrer que ce n'est pas la faute commise par l'autre qui compte le plus. Mais c'est ma réaction. Voyez-vous, si j'avais été vraiment brisé, je ne me serais pas irrité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et tandis que, avec nostalgie, je regarde vers la voie sainte, j'aperçois Jésus-Christ et je vois du même coup combien l'irritation est chose abominable, et que Jésus-Christ est mort pour m'en délivrer. Tandis que je regagne à genoux le chemin frayé, je m'approche à nouveau de Jésus-Christ pour être purifié par son sang précieux. Il attend de pouvoir, une fois de plus, remplir ma coupe jusque par-dessus bord. Alléluia. Où que vous sortiez de la voie sainte, Jésus-Christ est toujours là qui vous invite à revenir, à être brisé à nouveau et purifié par son sang précieux. Tel est le grand secret du chemin frayé, savoir que faire lorsque nous sommes tombés dans le péché. Le processus est toujours le même. Oh oui, apporter le péché à la croix, en avoir et en surtout avoir toute sa laideur. Donc, le confesser à Dieu ce péché et savoir qu'il est effacé tout simplement par la puissance du sang de Jésus. Pour savoir si nous sommes réellement sur la voie sainte, posons-nous les questions suivantes. Ma coupe déborde-t-elle? La paix de Dieu règne-t-elle dans mon cœur? Est-ce que j'aime les autres de tout mon cœur? Car ces choses sont le baromètre de la voie sainte. Si elles manquent, c'est la preuve que le péché s'est faufilé quelque part, peut-être sous la forme de pitié de soi-même, de péché en parole ou en pensée, de susceptibilité, d'autodéfense, de repliement sur soi-même, de soucis, de craintes, etc. Une autre caractéristique importante de la voie sainte, c'est que nous n'y marchons pas seuls. Tout d'abord, il y a le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a aussi d'autres pèlerins. Et la règle de la route, c'est que notre communion avec eux est aussi importante qu'avec le Seigneur lui-même. Les deux choses sont étroitement liées. On ne saurait interrompre l'une sans interrompre l'autre. Tout ce qui intercepte notre communion avec notre prochain, telle l'impatience, l'envie, la rancune, intercepte notre communion avec Dieu. Parfois, ces barrières ne sont que des voiles, encore plus ou moins transparents. Mais si nous ne les éliminons pas immédiatement, eh bien, ces voiles se transforment en rideaux épais et nous nous trouvons séparés de Dieu et de nos frères et sœurs et enfermés en nous-mêmes. Cela se comprend aisément. Dieu est amour et dès l'instant où je n'aime pas mon prochain, je ne suis plus en communion avec Dieu car Dieu continue à l'aimer. De plus, le résultat d'un tel péché est toujours de nous faire marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire de masquer, de cacher nos sentiments réels. Si bien, et c'est bien là, je crois, le sens du mot « ténèbres ». À travers toutes les Écritures, la lumière révèle. Mais les ténèbres cachent. Nous ne sommes plus nous-mêmes tant que Dieu est aussi bien avec Dieu qu'avec les hommes. Et bien entendu, chers amis, ni Dieu, ni un homme ne peut avoir communion avec quelqu'un d'irréel. Donc, le retour à la communion avec le Seigneur Jésus-Christ nous rendra aussi à la communion fraternelle. Tout manque d'amour doit être reconnu et confessé comme un péché, et ceci afin qu'il puisse être couvert par le sang de Jésus-Christ. Alors, nous pourrons nous mettre en ordre également avec nos frères, et l'amour de Christ pour lui remplira notre cœur. Nous aurons le désir de l'exprimer par des actes, et la communion sera pleinement rétablie. Telle est la vie de la voie sainte. Ce n'est ni une nouvelle doctrine, ni un nouveau sujet de prédication. Cela n'a rien de spectaculaire, car c'est simplement la vie de chaque jour, là où Dieu nous a placés. Il n'y a pas de contradiction avec ce que nous avons lu ou entendu jusqu'ici concernant la vie chrétienne. Car si nous commençons dès aujourd'hui à vivre cette vie, eh bien, nous expérimenterons le réveil, car qu'est-ce que ce dernier? Sinon, vous et moi marchons dans une complète unité sur cette voie sainte, c'est ça le réveil, où notre coupe est constamment purifiée et surtout constamment débordante. Chers amis, notre deuxième sujet, c'est la colombe et l'agneau. Oui, vivre une vie de victoire et gagner des âmes, c'est indispensable. Mais ce n'est pas là le produit d'un moi sanctifié ou de durs efforts. Non. C'est le fruit de l'esprit. Nous ne sommes pas appelés à produire des fruits seulement, mais à en porter. Ce n'est pas notre fruit, mais c'est le sien donc de Jésus-Christ. Il est donc d'une importance vitale que nous soyons continuellement remplis du Saint-Esprit comme des arbres qui sont pleins de sève, de sa sève, selon la traduction allemande et anglaise du fameux psaume 104, verset 16. Dans le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean, nous voyons de quelle manière le Saint-Esprit est descendu sur Christ. Jean-Baptiste avait vu Jésus venir à lui et avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ensuite, tandis qu'il le baptisait, il a vu les cieux s'ouvrir, l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et s'arrêter sur lui. Quelle image suggestive que cette colombe descendant et se posant sur l'agneau. Certes, la colombe et l'agneau sont parmi les plus douces créatures de Dieu. L'agneau nous parle de douceur et de soumission, et la colombe nous parle de paix. Qu'y a-t-il en effet de plus paisible que le roucoulement d'une colombe un jour d'été? C'est bon cela. Et cela ne suggère-t-il pas qu'au cœur même de la divinité se trouve l'humilité? Lorsque le Dieu éternel conçut le plan de se révéler dans son Fils bien-aimé, il le nomma l'agneau. Et lorsque le Saint-Esprit dut venir dans le monde, il vint sous l'emblème d'une colombe. Ainsi, ce n'est pas seulement parce que Dieu est si grand et nous si petit que nous devons être humbles, mais encore parce que Dieu lui-même, révélé par Jésus-Christ, est doux et humble de cœur. Voilà donc, sous une forme imagée, la condition qui peut permettre au Saint-Esprit de venir et de demeurer en nous. La colombe ne peut se poser et demeurer sur nous si nous ne revêtons pas le caractère de l'agneau, si notre moi n'est pas brisé. Eh bien, les manifestations du moi non brisé sont l'opposé des caractéristiques de la colombe. Relisez dans Galates chapitre 5 l'énumération des 9 fruits de l'esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, dont la colombe aspire à nous remplir. Ensuite, comparez aux œuvres qui sont viles, les œuvres de la chair. Dans le même chapitre, eh bien, la chair est le terme par lequel le Nouveau Testament désigne le moi non crucifié, le moi qui n'a peut-être même jamais été crucifié. Et la différence est aussi grande qu'entre le loup avide et la douce colombe. Il est donc clair que le Saint-Esprit ne pourra venir et demeurer en nous que si nous acceptons de devenir semblables à des agneaux, et cela sur chacun des points où il nous le montrera. Rien ne nous sonde et ne nous humilie davantage que de contempler l'agneau gravissant le calvaire pour nous. C'est là que nous reconnaissons combien de fois nous n'avons pas voulu devenir des agneaux pour lui. Oui, il fut un agneau, la plus simple des créatures, qui ne connaît aucun moyen de se sauver elle-même, totalement sans défense. Jésus-Christ s'est anéanti pour nous en devenant l'agneau, point de force ou de sagesse propre, aucun moyen auquel recourir pour se défendre. Non, il a été tout simplement et constamment dépendant du Père. Le Fils ne fait rien de lui-même, sinon ce qu'il doit faire au Père. Mais nous, combien nous sommes compliqués! Que de plans élaborés, que de tentatives pour nous secourir nous-mêmes! Oh oui, que d'efforts propres pour vivre la vie chrétienne et pour accomplir les œuvres de Dieu, comme si nous étions ou pouvions faire quelque chose. Nous n'avons jamais voulu être de simples agneaux, et la colombe a dû s'envoler, du moins en ce qui concerne sa présence sensible. Jésus-Christ a été l'agneau qui se laisse tendre, qui se laisse dépouiller de ses droits, de sa réputation, de toute liberté légitime, tel l'agneau qu'on dépouille de sa laine. Il ne résista jamais. Un agneau ne résiste pas. Outragé par amour pour nous, Jésus-Christ n'a pas répondu. Il a été, comme vous le savez, maltraité. et il n'a rien répondu à tout cela, il n'a pas proféré de menaces, oh non, il n'a jamais dit « mais, au fond, ne savez-vous pas que je suis le Fils de Dieu et que vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi ?» Mais nous, combien de fois nous avons résisté, refusant d'être dépouillés de nos droits. Nous n'avons pas su perdre ce que nous possédions par amour pour Jésus-Christ. Nous avons exigé le respect dû à notre position. Nous avons résisté et combattu. Alors la colombe est partie, emportant la paix et laissant notre cœur endurci. En outre, Jésus-Christ a été l'agneau silencieux, semblable à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche, il ne s'est jamais défendu ni expliqué. Mais nous, avons-nous été silencieux lorsque on nous traitait avec malveillance ou on nous accusait injustement? Nous avons élevé la voix pour nous défendre et nous venger. Nous nous sommes excusés alors que nous aurions dû admettre franchement nos torts. Ah oui, nous cherchons premièrement toutes les excuses possibles, car nous sommes évidemment jamais en faute. Et chaque fois, la colombe a dû fuir et nous retirer sa paix et évidemment aussi sa bénédiction. Jésus-Christ a été également l'agneau sans tache. Non seulement aucune parole ne sortit de ses lèvres, mais il n'y avait dans son cœur rien d'autre que de l'amour pour ceux qu'il avait envoyés à la croix. Point de rancune, oh oui, mais aucune amertume, rien de tout cela. Mais nous, quel ressentiment n'avons-nous pas éprouvé contre celui-ci ou celui-là, et pour des choses tellement plus minimes que celles qu'il supporta, lui, le Seigneur. Chacune de ces réactions a laissé une tache dans notre cœur, et une fois de plus, la colombe a dû s'enfuir, parce que nous n'avons pas su supporter et pardonner pour l'amour de notre Seigneur. Telles sont les dispositions et les actes qui éloignent le Saint-Esprit de notre vie. Et tout cela est péché. Le péché est le seul obstacle au réveil de l'Église. Une question s'impose donc. Comment la colombe peut-elle revenir à nous avec sa paix et sa puissance? Et voici la réponse. L'agneau de Dieu, en effet, Jésus-Christ n'est pas seulement l'agneau simple, dépouillé, silencieux et sans tache, mais il est avant tout l'agneau rédempteur, donc il est notre substitut. Pour le Juif, l'agneau qu'il offrait à Dieu était toujours un substitut. Sa douceur et sa soumission n'étaient que des traits secondaires à côté de son rôle expiatoire. Son rôle expiatoire qui consistait à quoi? À être immolé pour son péché, après quoi son sang précieux était répandu sur l'autel. L'humilité de Jésus agneau n'était nécessaire que pour qu'il devint notre substitut sur la croix, donc notre bouc émissaire, et ceci pour porter nos péchés en son corps sur le bois, afin de pourvoir au pardon et à la purification de nos péchés si nous en repentons. Si nous pouvons nous en repentir, c'est ça qui est important, ce qui est absolument même indispensable. De plus, Dieu veut nous ramener à la croix pour que nous y voyons notre péché blessant et meurtrissant l'agneau. Et nous l'avons nous aussi crucifié parce que nous n'avons pas accepté d'être brisé. L'agneau, plein de douceur, a tout enduré, et ceci afin que le sang soit là pour nous accorder pardon et purification. Et ceci lorsque, enfin, nous allons, je l'espère bien, et je vous le demande, de nous repentir. Donc, que cette pensée solennelle puisse briser notre orgueil, mon orgueil, et courbe notre cœur dans la repentance. Car ce n'est que lorsque nous aurons vu nos péchés déchirer le cœur de Jésus-Christ que nous serons brisés et prêts à nous en repentir et à les abandonner afin que le sang de l'agneau nous en purifie. Alors la colombe, le Saint-Esprit, reviendra sur nous avec sa paix et sa bénédiction. Chers amis, écoutez s'il vous plaît ces belles paroles d'une sœur en Christ. Elle a dit « Jésus s'humilia pour moi jusqu'à la crèche et pour moi descendit le chemin de la croix. Oui, pour moi, créature orgueilleuse et revêche, qui longtemps refusa de servir l'humble roi. Sa volonté céda devant celle du Père. Il avança toujours dans la pleine clarté. Or moi, je préférais vivre seul, sans Christ, la sainteté. Ô Seigneur, brise, lave et remplis ce cœur vide. Tiens-moi toujours blotti sous ton sang précieux, que de ta communion je sois toujours avide, et que mon cœur brisé loue ton nom merveilleux. » Un chrétien d'Afrique, homme de Dieu, raconta un jour dans une réunion que tandis qu'il montait une colline, pour se rendre au culte, il entendit tout à coup des pas derrière lui. Se retournant, il vit un homme qui montait portant un très lourd fardeau. Et puis, il vit que ses mains étaient percées et il le reconnut pour le Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit alors, « Seigneur, est-ce le péché du monde que tu portes ?»« Non, répondit Jésus-Christ, non pas le péché du monde, mais le tien. » Tandis que ce frère racontait la vision que Dieu venait de lui accorder, car c'était une vision, eh bien le cœur de ceux qui l'écoutaient, et le sien même, furent brisés en ce moment-là en voyant leur péché sur la croix. Oui, chers amis, il faut qu'il en soit de même pour nous. Alors seulement, nous serons prêts à faire les confessions, les excuses, les réconciliations et les restitutions qui font évidemment partie de la véritable repentance. Aussi, il serait important de dire la prière de ce chrétien africain « Reviens, ô céleste colombe, douce messagère de paix, je haïs mes péchés en grand nombre. Qui t'avait pourtant chassé de mon cœur. Oui, chers amis, la colombe est l'emblème de la paix. Si donc le sang de Jésus-Christ nous a purifiés et que nous marchons humblement avec l'agneau, le signe de la présence et de la pénétration ou de la plénitude surtout de l'Esprit Saint en nous sera la paix. Et c'est là le critère de notre marche tout au long de la journée. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, selon Colossiens chapitre 3, verset 15. Si la colombe cesse de chanter dans notre cœur, ce ne peut être qu'à cause du péché, d'une manière ou d'une autre, et nous avons abandonné l'humilité de l'agneau. Demandons alors à Dieu de nous montrer ce péché et hâtons-nous de nous en repentir et de l'apporter à la croix. Et une fois de plus, la colombe pourra s'installer dans notre cœur. De cette manière, nous connaîtrons la présence continuelle de l'Esprit Saint offert à tout homme déchu par l'application immédiate et constante du sang précieux de Jésus-Christ. Ne voulons-nous pas, dès aujourd'hui, chers amis, soumettre notre vie au règne de la colombe, le Saint-Esprit de la paix et la paix de Dieu surtout, pour qu'il en devienne l'arbitre tout au long de notre journée. Nous serons constamment convaincus de péché et humiliés, mais nous parviendrons ainsi à une conformité réelle avec l'agneau de Dieu et nous connaîtrons la seule victoire qui vaille la peine d'être remportée, qui est la conquête du moi. Chers amis, notre troisième et dernier sujet, c'est le réveil dans nos foyers. Dans le plus beau des jardins que la terre ait connu, vivaient il y a des milliers d'années un homme et une femme créés à l'image de Dieu. Le but de leur vie était d'être à chaque instant les témoins de la gloire du Créateur aux yeux même de la création tout entière. Ils acceptaient leur position de simples créatures vis-à-vis de Dieu dans une soumission et un abandon total à sa volonté. Ils ne vivaient pas pour eux-mêmes, mais pour lui. Et de ce fait, ils étaient aussi soumis l'un à l'autre, et l'harmonie parfaite régnait donc dans le foyer. C'était la paix, c'était l'amour, la communion, non seulement avec le Seigneur, mais aussi entre eux. Et puis, un jour, le serpent se glissa dans ce foyer fondé sur Dieu, et avec le serpent entra le péché. Alors la paix de Dieu ayant disparu de leur cœur, l'harmonie quitta le foyer. Désormais, ils ne vécurent plus pour Dieu, mais chacun pour soi. Ils furent comme des dieux, soucieux de leur propre gloire, recherchant l'adoration, et le moi devint le centre de leur vie. Ne vivant plus pour Dieu, ils ne vécurent plus l'un pour l'autre. À la paix, l'harmonie, l'amour et la communion succédèrent la discorde et la haine. En un mot, on peut dire que c'est le péché. Donc, le péché est entré d'abord dans le foyer. et c'est sûrement là que nous péchons le plus, ou si c'est bien dans le foyer que le réveil doit commencer. Certes, le réveil est impérieusement nécessaire dans l'Église, dans le pays que nous habitons, dans le monde tout entier. Mais une Église réveillée, qui serait composée de foyers non réveillés, serait une vaste hypocrisie. Oui, c'est dans le foyer que doit commencer le réveil, et il ne sera durable qu'à cette condition-là. Et c'est là peut-être qu'il est le plus difficile et qu'il coûte le plus, mais c'est là aussi qu'il est le plus nécessaire. Avant d'aller plus loin, redisons ce qu'est le vrai réveil, ce que le réveil véritable veut dire. C'est tout simplement une nouvelle vie venant d'en haut, qui est versée dans des cœurs où la vie spirituelle a baissé. Oui, ce n'est pas une vie faite d'efforts propres, d'activités fébriles, dont nous aurions nous-mêmes pris l'initiative. Ce n'est pas la vie de l'homme, c'est la vie de Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ, communiquée par le Saint-Esprit, remplissant nos cœurs et débordant sur les autres. Cette vie se manifeste par la communion et l'unité avec ceux avec qui nous vivons. Il doit y avoir rien entre nous et Dieu, et rien entre nous et notre prochain. C'est avant tout au foyer que nous devrions faire l'expérience de cette nouvelle vie. Combien est différente l'expérience de plusieurs d'entre nous dans nos foyers. Nous qui sommes pourtant chrétiens, il y a là la petite irritation, les sautes d'humeur, oui, des sautes d'humeur, l'égoïsme, et n'oublions pas le ressentiment. Et même là où il n'y a rien de grave, on ne voit pas vraiment que l'unité et la communion soient parfaites. C'est toujours le même principe infaillible. Tout ce qui se place entre nous et Dieu se place entre nous et les autres, et vice-versa. Notre communion avec Christ étant interrompue, nos cœurs ne débordent pas de la vie divine, et les rapports avec les nôtres s'en ressentent. Au fond, qu'est-ce qui ne va pas dans nos foyers? Quand nous parlons de foyer, nous entendons par là toutes les relations qui existent entre femmes et mari, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, en somme, toutes les relations de ceux qui sont appelés à vivre ensemble. Le premier reproche que nous adressons aux chrétiens, c'est qu'au sein de leur famille, on ne vit pas dans la lumière. Nous préférons fermer les volets, car les autres ne nous connaissent pas tels que nous sommes vraiment, et nous ne tenons surtout pas à ce qu'ils s'ingèrent dans notre vie. Même ceux qui vivent dans notre intimité ignore la plupart du temps ce qui se passe en nous. Ils ignorent nos difficultés, nos luttes, nos faillites, les chutes qui se répètent souvent et les points sur lesquels nous avons rarement la victoire. C'est bien la conséquence du péché si nous sommes si peu ouverts et transparents à l'égard de ceux avec lesquels nous vivons. Voyez Adam et Ève qui se cachent loin de Dieu. Ils se cachent derrière les arbres du jardin d'Éden. N'est-ce pas le péché qui les conduit à agir ainsi? Et n'est-ce pas à cause du péché qu'ils se cachent l'un de l'autre? Il est certainement des réactions intérieures et des pensées qu'Adam n'a jamais dévoilées à sa femme, comme Ève de son côté. Elle n'a jamais dit à son mari tout ce qu'il y avait dans son cœur. Et depuis lors, il en a été toujours ainsi. Nous cachons la vérité sur notre état aussi bien à Dieu qu'à notre prochain. Combien cela est coupable? Nous couvrons notre véritable moi d'un masque. Nous le dissimulons derrière d'épaisses murailles. Parfois, lorsque nous sommes sur le point d'être découverts, nous donnons le change en plaisantant. Nous craignons de rester nous-mêmes, car nous ne voulons pas, surtout pas, que les autres nous approchent de trop près et sachent ce que nous sommes en réalité. Ainsi, nous bluffons. N'étant pas véridiques avec les autres, il ne peut y avoir de véritable communion entre nous. Avec de telles dispositions, nous ne pourrons jamais réaliser dans notre foyer l'union et la communion parfaite. L'Écriture appelle cela marcher dans les ténèbres, car tout ce qui se cache est forcément ténèbres. Signalons une deuxième chose qui ne va pas dans nos foyers. Nous n'aimons pas vraiment les autres. Ah oui, vous me direz, ce n'est pas le cas chez nous, car on ne peut guère s'aimer plus que ce que nous aimons, nous, mon mari et moi. Certes, nous voulons vous croire. Mais qu'entendez-vous par amour? L'amour dont parle l'Écriture n'est pas seulement un sentiment et une forte passion. Personnellement, du vivant de ma chère épouse, oui, qui est hélas morte par négligence d'un médecin, nous nous aimions tellement que les autres nous intéressaient absolument pas. Oui, il y a de quoi réfléchir. Lisez le passage bien connu de 1 Corinthiens 13 qui définit le véritable amour et voyez si le vôtre est de la même nature. À cette lumière, nous découvrirons que nous aimons à peine notre prochain et que notre comportement est dans une direction opposée. Or, l'opposé de l'amour, c'est souvent la haine. Examinons de plus près quelques points concernant l'amour décrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour est passion, est plein de bonté, n'est point envieux, jaloux, ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête ni en parole, ne cherche pas son intérêt, donc pas égoïste, ne s'irrite point, ne s'énerve point, ne soupçonne point le mal, donc ne nourrit pas de mauvaises pensées à l'égard du prochain. Chers amis, que reste-t-il de notre amour après un pareil examen? Car souvent, nous agissons d'une manière diamétralement opposée. nous avons de nombreux mouvements d'impatience et répondons ou réagissons sans aucune charité. Que de jalousie aussi. Un mari peut envier les dons, même les progrès spirituels de sa chère épouse. Il arrive même que les parents soient jaloux de leurs enfants, et bien souvent il existe une jalousie amère entre frères et sœurs. Et là là, je peux vous en dire quelque chose. Vous dites, il y a là rien de malhonnête, mais ceci ne touche-t-il pas au domaine de la courtoisie dans nos rapports avec les nôtres? Où en êtes-vous sur ce point, chers amis? Nous croyons si aisément que nous pouvons nous relâcher. Et c'est une erreur. La courtoisie est une forme d'amour qui se manifeste dans les petits détails de la vie collective. Or, n'est-ce pas dans les petites choses que nous trébuchons si facilement? Il arrive que nous sommes enflés d'orgueil. L'orgueil se manifeste de bien des manières. Nous croyons connaître, savoir mieux que les autres. Nous voulons être indépendants, commander tout le monde, diriger tout. Continuellement, nous trouvons à redire aux autres. De telles dispositions produisent le mépris. Convaincus de notre supériorité, nous nous plaçons au-dessus du prochain. Peut-on prétendre aimer vraiment quelqu'un, oui, que l'on considère comme inférieur, que l'on considère incapable ou ignorant? L'amour ne cherche pas son intérêt, c'est-à-dire n'est pas égoïste. Hélas, que de fois nous plaçons nos intérêts et nos désirs avant ceux des autres. L'amour est passion. La patience est une qualité bien rare, car nous nous irritons pour si peu. Un petit travers de notre frère et nous nous emportons. Lorsqu'il fait ou ne fait pas telle chose, nous le jugeons sévèrement et conservons dans notre cœur du ressentiment. Sa manière de faire nous irrite. Et pourtant, nous prétendons nous aimer dans notre foyer. Ces choses-là se passent tous les jours et nous n'y prenons pas garde. Elles ne sont pas de l'amour, mais c'est carrément du mépris. L'impatience, la jalousie, l'orgueil, la volonté propre, la mauvaise humeur, le ressentiment sont autant de formes de la haine. Or la haine, il me semble que c'est le péché. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït et haït même son frère, en est jaloux, sera et restera encore pour un bon moment dans les ténèbres, selon Saint Jean chapitre 2 verset 9. Tout cela va donc créer au sein même de la famille des tensions, des barrières, des discordes qui rendent impossible la communion avec Dieu et avec nos semblables. Chers amis, avant de terminer, et après tout ce que nous venons de dire, une question se pose. Désirons-nous une vie nouvelle? Désirons-nous le réveil dans notre foyer? Voulons-nous rester comme nous sommes ou voulons-nous un renouveau au sein de notre famille? Évidemment, ce n'est que lorsque nous aurons vraiment faim et soif d'un changement que nous ferons le nécessaire pour l'obtenir. La première chose à faire, c'est d'appeler le péché péché. Donc, mon péché, pas celui des autres, puis d'aller à la croix, le confesser et croire que Jésus-Christ m'en purifie au moment même. Et c'est là, à la croix, alors que repentant, nous courbons la tête, que nous recevons son amour, l'amour qui s'oublie, qui supporte et pardonne. Le sang précieux de Christ nous purifie de tout manque d'amour, de toute volonté coupable, et le Saint-Esprit nous remplit de la nature même de Christ. L'amour décrit dans 1 Corinthiens 13 est celui-là même de notre Seigneur. Cet amour est un don que nous possédons lorsqu'il vit en nous. Nous pouvons faire cette expérience chaque fois que nous apportons notre manque d'amour à la croix pour en être purifiés. Le sang de Christ est toujours, aujourd'hui encore, une source jaillissante. Toujours à nouveau, il nous faudra renoncer à nos droits, comme Jésus-Christ a renoncé aux siens pour nous, pour toi, pour moi. Nous découvrirons bien vite que ce qui, en nous, se dresse brutalement en face de l'égoïsme et de l'orgueil des autres, c'est notre propre égoïsme et notre propre orgueil que nous ne voulons pas sacrifier. La présence et l'attitude plus ou moins égoïste de nos semblables nous obligeront à prendre par amour pour eux des chemins que nous n'aurions pas choisis. Nous les accepterons humblement comme étant la volonté de Dieu et nous nous soumettrons aux différentes épreuves que le Seigneur Jésus-Christ nous enverra pour notre bien. Cela ne veut pas dire, bien entendu, qu'il nous faudra accepter l'égoïsme de l'autre comme étant la volonté de Dieu pour lui-même, loin de là, mais seulement comme la volonté de Dieu pour nous. En ce qui concerne notre prochain, Dieu se servira peut-être de nous dans la mesure où nous serons brisés. Quand le Seigneur nous aura brisés au calvaire, nous devrons être prêts à mettre les choses en règle avec les autres. Et quelquefois même avec les enfants, ce qui sera la preuve tangible de notre brisement. Attention, brisement et dureté sont des expressions contraires. Le cœur dur, il dit, c'est ta faute. Le cœur brisé, lui, il dit, c'est ma faute. Une toute autre atmosphère régnera dans notre foyer si nous employons cette dernière formule. N'oublions pas que la croix, qu'à la croix, cher ami, il n'y a de place que pour une seule personne à la fois. Nous ne pouvons pas dire « j'avais tort, mais tu avais tort aussi, toi ». Allons tous les deux à Jésus-Christ. Non ? Il faut, mon cher ami, aller seul et dire « c'est ma faute ». Oh Dieu, lui travaillera beaucoup plus dans le cœur de l'autre par mon brisement que par tout ce que je pourrais dire ou faire. Mais si nous agissons ainsi, Dieu répondra certainement à notre prière et il amènera aussi notre frère et notre sœur au calvaire. Alors, nous serons un. Alléluia. le mur de séparation s'écroulera et nous pourrons ensemble marcher dans la lumière, dans la véritable transparence, l'un avec l'autre, ainsi qu'avec Jésus-Christ. Nous nous aimerons ardemment, les cœurs absolument purs. L'unité ne peut avoir lieu qu'au calvaire, car c'est là, chers amis, seulement là, que le péché qui nous dresse les uns contre les autres sera ôté. Et quand nous parlons d'union parfaite, nous écoutons et nous évoquons sûrement, surtout et immédiatement, la vision de plusieurs pécheurs qui se réunissent ensemble au calvaire. Chers amis, nous allons terminer ensemble par la prière. Seigneur, daigne mettre toi-même dans nos cœurs et sur nos lèvres la prière que nous devons t'offrir ô notre Dieu. Nous nous approchons de toi au nom de celui qui a dit « Toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Que nous ne nous contentions pas, Seigneur, de lire ces admirables promesses, mais que nous en éprouvions la bienheureuse réalité. Sauveur puissant, multiplie-nous les grâces de ton Saint-Esprit et fortifie-nous pour ton service. Nous nous humilions devant toi pour nos fautes de cette journée. Fais abonder dans nos cœurs le sentiment de ton pardon et de ta délivrance, afin que nous puissions d'un cœur paisible nous décharger réellement sur toi de tout notre fardeau sans les reprendre aussitôt, comme il nous arrive bien trop souvent. Daigne veiller sur nous et nous avoir en ta sainte garde avec tous ceux que tu nous as donné à aimer. Fais que nous soyons fidèles à te les présenter dans nos prières et donne-nous d'être avant tout préoccupés de leurs intérêts éternels et du salut de leurs âmes, que nous sentions que c'est alors seulement que nous les aimerons véritablement, parce que nous les aimerons pour eux-mêmes et non pour nous. Entends notre prière, ô notre Dieu, et remplis nos cœurs de ta paix et de la joie du Saint-Esprit pour l'amour de notre Sauveur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que c'est une réalité que Dieu vous aime. Il vous aime et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages, à ces études. Et à bientôt à nouveau, car cette série va continuer encore un bon moment. Au revoir, mes très chers amis.